page Facebook VOA Afrique.
Heures ici à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter la voix de l'Amérique. À ce micro, Mohamed Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Fin ce dimanche des Jeux Olympiques de Paris 2024, les États-Unis et la Chine ont terminé à égalité en tête au nombre de médailles d'or remportées avec 40 titres chacun, avec 125 médailles, 40 or, 44 argent, 42 bronze. Les États-Unis finissent à la première place du tableau des médailles grâce à un plus grand nombre de médailles que d'argent que la Chine. La France a également accroché le top 5 derrière les États-Unis, la Chine, l'Australie et le Japon, un classement établi au nombre de médailles d'or. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment ce dimanche pour un quatrième mandat après avoir obtenu plus de 99% des voix à l'élection du mois dernier. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture organisée l'après-midi dans un stade de 45 000 places bondées de la capitale Kigali. Monsieur Kagame, 66 ans, s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Président depuis 1994, Paul Kagame a remporté chaque présidentielle à laquelle il s'est présenté, à chaque fois avec plus de 93% des voix. En Ouganda, le bilan de l'effondrement d'une vaste décharge samedi dans la capitale Kampala s'est alourdi à 19 morts et les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Environ 1000 personnes ont été déplacées par l'incident selon Patrick Onyango, porte-parole de la police de Kampala. D'après les médias locaux, des maisons, des personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de cet éboulement provoqué samedi aux premières heures de la journée par de fortes pluies. La Somalie et l'Éthiopie se retrouvent pour une nouvelle série d'entretiens lundi à Ankara, a annoncé ce dimanche le ministère turc des Affaires étrangères. C'est pour un deuxième cycle de négociations qui vise à éviter que ne s'envenime le conflit entre Addis Abeba et Mogadiscio, indique le ministère dans un communiqué. Il s'agit de permettre l'accès de l'Éthiopie aux eaux internationales via la Somalie, mais sans attenter à la souveraineté nationale de celle-ci. Addis a conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour l'accès à la mer, avec engagement à reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie. Cet accord a ouvert une nouvelle crise entre ces deux voisins d'Afrique de l'Est. L'armée gambienne a annoncé samedi l'arrestation d'un ancien général, membre présumé d'un escadron de la mort sous l'ancien président Yahya Jammeh. L'ex-général de brigade Bora Kole est présumé avoir appartenu à une unité paramilitaire surnommée Junglers, chargée d'exécuter des ordres d'assassinat illégaux afin d'intimider la population gambienne et de réprimer l'opposition au régime de Yahya Jammeh. Monsieur Kole a été arrêté vendredi vers minuit quand il s'est volontairement rendu à la police du camp de Yundum, près de la capitale Banjul, indique un communiqué des forces armées de Gambie. Il est actuellement en détention et coopère avec la police militaire dans les enquêtes de cette unité, ajoute l'armée. Ethiopian Airlines a signé un accord pour la conception d'un nouvel aéroport de 6 milliards de dollars près de la capitale Addis Abeba, décrit comme le plus grand d'Afrique. Le nouveau hub pourra accueillir 100 millions de passagers par an, une fois achevé en 5 ans, a déclaré le directeur général d'Ethiopian Airlines lors d'une conférence de presse vendredi. Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique avec un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars pour l'exercice 2023-2024 et 17,1 million de passagers.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Des centaines de Palestiniens fuient ce dimanche des quartiers de Khan Younes dans le sud de Gaza où l'armée israélienne prévoit de nouvelles opérations au lendemain d'un raid sur une école considérée comme l'un des plus meurtriers depuis le début de sa guerre contre le Hamas. Tôt ce dimanche, Israël a appelé les civils à quitter la zone d'Al-Jala, définie auparavant comme zone humanitaire, poussant de nouveau sur les routes des familles, souvent déjà déplacées plusieurs fois en plus de 10 mois de guerre. L'armée a affirmé que le Hamas avait implanté une infrastructure terroriste dans cette zone et qu'elle s'apprêtait à mener des opérations. Le Hamas a appelé ce dimanche soir à appliquer le plan en 3 phases proposé début juillet par les Américains pour une trêve à Gaza plutôt que de mener plus de négociations ou d'amener de nouvelles propositions. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Mohamed Oumfa, je vous prie de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission, le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Georges et Léonard Sagnon assurent la réalisation. Ce soir, nous mettons en lumière un événement qui s'est déroulé sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, en marge des Jeux Olympiques de 2024. Les représentants des grandes religions se sont réunis aux côtés du président du Comité international olympique pour célébrer les idéaux de paix et de fraternité que ces Jeux incarnent. Dans une atmosphère dépourvue de pompe et de rituels, cet appel à la paix a résonné profondément, invitant chacun, quelle que soit sa foi, à se joindre aux athlètes pour promouvoir un monde plus harmonieux. Nous reviendrons sur les discours inspirants de cette rencontre, des paroles du grand rabbin de France à celles de Mgr Philippe Marseille, en passant par les témoignages de personnalités bénévoles au centre multiconfessionnel du village olympique. Nous allons aussi explorer comment ce moment de fraternité et de partage spirituel transcende les frontières religieuses et inspire une véritable communion humaine. Nous sommes ici pour donc cette discussion sur la paix, la foi et le sport. Nous sommes en ligne avec le pasteur Christian Krieger. Il est président de la Fédération protestante de France, une institution qui représente le protestantisme dans sa grande diversité, dans la société et auprès des pouvoirs publics. Pasteur Krieger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez donc là lors de cette cérémonie interreligieuse devant Notre-Dame. Quel est le message principal que vous avez transmis en tant que représentant de la Fédération protestante de France lors de cet événement?
Écoutez, moi j'avais trois idées en tête pour cette prise de parole pour laquelle je suis assez reconnaissant. La première, c'était d'exprimer un sentiment de gratitude au Comité international olympique, au COJO, à la ville de Paris, à la région Île-de-France, pour l'organisation des Jeux Olympiques, parce qu'en France, on vit un grand moment d'unité, de fraternité, de ferveur populaire. Notre pays a traversé quelques moments de tension avec les législatives, avec les élections européennes, avec beaucoup d'invectives, aussi un débat politique assez vigoureux. Et donc, on vit un grand moment de fraternité et d'unité qu'il est beau à vivre. Et surtout, il était très beau à vivre dans les fan zones, dans les stades, des inconnus se tomber dans les bras des uns des autres. Donc ça, c'était mon premier message. Le deuxième message, c'était d'avoir une parole de gratitude aussi au COJO et au CIO, parce que ils ont eu une parole à l'intention de tous ceux ou de toutes celles qui se sont sentis blessés au moment des cérémonies inaugurales par telle ou telle parodie. Et ils ont exprimé en fait une parole d'excuse en expliquant que ce n'était pas leur intention de parodier la scène. Donc je voulais les remercier pour ça. Et ensuite, on nous avait donné, c'est le troisième propos, on nous avait donné une thématique, en l'occurrence, comment le sport mobilise-t-il le meilleur pour l'être humain et l'humanité. Et donc là, j'ai déployé trois idées. Premièrement, que le sport est une école de vie pour l'athlète, une école de discipline, enfin, vous connaissez tout ça. Deuxièmement, c'est une pédagogie sociale, c'est-à-dire par la compétition, la rencontre avec l'autre et le travail, enfin, la pratique du sport en équipe, c'est une école de sociabilisation. Et ensuite, j'ai développé l'idée que le sport, et notamment l'olympisme, est une pédagogie du modèle universel, c'est-à-dire on développe une conscience de l'altérité, une compréhension de l'autre, et ce sont des éléments fondamentaux pour construire la paix.
Pasteur Krieger, il y a eu des paroles du grand rabbin de France, Haïm Korsia, de Mgr Philippe Marseille. Il y a eu aussi des témoignages de personnalités comme Najat Ben Ali et Aboubakar. Voudriez-vous nous parler brièvement ce que toutes ces personnalités ont partagé avec vous et les autres?
Écoutez, alors brièvement, c'est dire que finalement chaque tradition religieuse présente, donc était présent à la fois une rectrice d'une mosquée, donc Najat Ben Ali, le grand rabbin de France, la matrinée qui est co-président des bouddhistes en France, une parole catholique, une parole orthodoxe et une parole hindoue. Et donc chacun a essayé de dire son rapport au sport, la lecture qu'il fait de l'olympisme une parole un peu d'encouragement au sport, à participer à cette construction de la paix et de la fraternité.
Alors, comment voyez-vous le rôle des religions dans la promotion des idéaux de paix et de fraternité associés aux Jeux Olympiques ?
Alors, c'est une question très intéressante. Je voudrais tout d'abord dire que la paix et la fraternité, ce n'est pas seulement les idéaux des Jeux Olympiques. C'est les idéaux ou l'objet même ou l'essence même de nombreuses institutions. Il n'y a pas d'action éducative si elle ne vise pas la paix ou la fraternité. C'est l'action bien sûr du sport, mais aussi de toutes les religions, des Nations Unies. Donc, d'une certaine manière, cet idéal est un idéal de tous et les religions y participent. Alors, comment les religions peuvent-elles participer à cet idéal ? Moi, je vois principalement deux éléments. Le premier élément, il faut partir du constat que le conflit ou la conflictualité est une donnée naturelle de la vie humaine. Vous mettez 10 enfants autour d'une table avec un dessin et des crayons de couleur. Il y a fort à parier qu'après quelques minutes, chacun veut la couleur jaune pour dessiner un soleil. Sans méchanceté entre eux, à un moment donné, s'instaure une conflictualité. Et en fait, les religions ont un message pour vivre autrement la conflictualité que par la violence ou par la loi du plus fort. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, ou le deuxième rôle des religions, à mon sens, et c'est particulier peut-être au christianisme, mais je ne voudrais pas le réduire au christianisme, la paix, surtout la paix durable, a besoin de réconciliation, a besoin de guérison. Il faut guérir les blessures du passé, il faut guérir les mémoires qui sont blessées parce qu'on porte dans sa mémoire une blessure du passé. Et en fait, les religions peuvent contribuer à cette guérison des mémoires, déconstruire des préjugés et par ce biais-là, finalement, faire la promotion de la paix et de la fraternité.
Et comment la Fédération protestante de France participe-t-elle aux initiatives interreligieuses ? Notamment, il y a eu cette activité devant Notre-Dame. Comment vous participez
Alors en fait, notre rapport à l'interreligieux est assez multiple. Je vous parle en tant que président. Donc le président, premièrement, ou la Fédération protestante de France, elle est présente au centre multiconfessionnel. Donc au sein du village olympique, ça fait partie du cahier de charge de l'accueil et de l'organisation des Jeux olympiques, est prévue une aumônerie des athlètes et des coachs, des entraîneurs qui les accompagnent et de leur entourage. Et donc, cette aumônerie est organisée dans le cadre d'un centre multiconfessionnel où des juifs, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et les hindouistes sont présents, accueillent les athlètes qui viennent vers eux. Et la Fédération protestante est présente, en fait, pour le culte protestant, avec des équipes d'aumôniers mixtes pour à la fois être en capacité d'accueillir des hommes, des femmes, notamment aussi quand ils souhaitent une expression dans le cadre, j'allais dire, d'une écoute du même genre. Ensuite, plus globalement, la Fédération protestante de France est très engagée dans le dialogue avec les religions parce qu'on participe à une plateforme de collaboration de l'ensemble des responsables des cultes en France. Qu'est-ce qu'on y fait ? On se rencontre assez régulièrement, 3-4 fois par an. On produit des déclarations quand il le faut, comme après les attentats du 7 octobre. On organise des formations sur des sujets qui nous sont communs et transversaux. On organise des colloques. On a organisé récemment un colloque sur la question de la fin de vie, puisque ce sujet était en débat en France. Et puis, on peut être porteur de plusieurs projets. Et à ce titre-là, je crois que je voudrais insister pour vos auditeurs que dans la sociologie française, le culte protestant est relativement minoritaire et représente à peu près 3% de la population. Et à ce titre-là, dans l'interreligieux, ce n'est ni le grand frère, ni le frère avec une problématique particulière, et donc il a souvent un rôle un peu de facilitateur. C'est-à-dire souvent les protestants sont à l'initiative ou pensent le bien de la fraternité et le bien-être finalement de l'action interreligieuse.
Nous parlons donc des JO 2024, un appel interreligieux pour la paix. Eric Manilakiza avec vous, notre invité, c'est le pasteur Christian Krieger qui est président de la Fédération protestante de France. Nous observons une petite pause. Pasteur Krieger, restez avec nous. Nous revenons dans un instant. Quelle a été votre expérience personnelle de cette rencontre interreligieuse et comment espérez-vous que ces moments inspirent les fidèles protestants ou d'autres confessions religieuses?
Alors l'expérience personnelle, je pense que vous parlez de cette rencontre de dimanche matin.
Tout à fait.
Voilà. Alors pour moi, c'est une expérience assez habituelle. Et je voudrais vous parler d'un écart. En fait, les responsables des différentes religions se rencontrent très régulièrement. Il y a une réelle fraternité entre ces responsables. Malheureusement, ce n'est guère connu. Et souvent, quand des personnes nous voient, j'allais dire, rigoler ensemble, parler, être solidaires, etc., quand bien même on peut avoir des différends, ils sont surpris. En janvier 2023, on avait une interview sur un sujet très très grave, sur la question est-ce qu'il faut introduire en France une loi permettant ou légalisant le suicide assisté, voire l'euthanasie. Et on a été accueillis par un journal qui s'appelle le Journal du Dimanche. Et on avait en tête de ce journal, de ce jour-là, une photo où les quatre responsables religieux étaient en train de rigoler très très franchement. Et tout le monde disait mais quoi ? Vous n'êtes pas en conflit entre vous sur des sujets dogmatiques, etc. Et en fait, ce qui est important, à travers la visibilité d'un événement comme celui dans le cadre des JO, avec la présence notamment du président du CIO et du président du COJO, ce qui est important, c'est que finalement, qu'une conscience de cette fraternité des responsables religieux soit plus largement partagée avec tous les téléspectateurs, puisque cette rencontre ou cette cérémonie était retransmise en direct sur la télévision publique en France. C'est bien ça le réel enjeu de l'interreligieux, même de l'œcuménisme, c'est la réception. Le fait que finalement l'ensemble des fidèles prennent conscience de la fraternité possible avec un musulman, avec un juif, avec un bouddhiste, etc. Et que nous n'avons pas vocation à être des adversaires, des ennemis, des compétiteurs, mais des frères en humanité, quand bien même des fois ou des religions différentes structurent nos existences.
Et en quoi la collaboration avec d'autres confessions religieuses lors des JO peut-elle servir de modèle pour des initiatives similaires à l'échelle internationale?
Alors moi, je voudrais vous dire qu'il y a une chose qui m'interpelle très fortement dans cette collaboration et qui est d'une certaine manière une nouveauté. Alors j'avais déjà eu cette idée il y a quelques années de cela, mais elle n'a jamais été concrétisée. Souvent, en France, l'interreligieux, alors on peut avoir des groupes interreligieux qui ont des projets, un jardin interreligieux, etc., localement. Mais souvent l'interreligieux, pour moi, en tant que président de la Fédération protestante de France, c'est du ponctuel. On se concerte certes régulièrement, on se rencontre tous les deux mois, on a une déclaration, mais c'est toujours une action ponctuelle. Or, ce qui se passe dans le centre multiconfessionnel au village olympique, c'est que les religions coexistent. C'est-à-dire c'est un espace où 5 lieux de culte sont réunis, j'allais dire avec des petites cloisons certes, mais sur un même espace géographique. Et donc tous les matins, l'imam, le pasteur, le prêtre, le lama se saluent, échangent. Et en fait, l'interreligieux devient quelque chose qui est de l'ordre du quotidien. Et en rencontrant Anne Hidalgo justement dimanche lors de cette cérémonie, je lui ai dit, écoutez, en fait, il faudrait créer à Paris une maison des religions, un endroit où les différentes religions se fréquentent quotidiennement. Et pas simplement symboliquement quand il faut dire ou manifester quelque chose publiquement de manière ponctuelle. Et donc nous sommes en train de réfléchir s'il ne faut pas créer une maison des religions. Alors il ne s'agit pas de faire de syncrétisme, mais il s'agit effectivement de créer un lieu de proximité, de fraternité où les uns et les autres coexistent et se croisent régulièrement et sont conscients d'une action commune. Alors comment traduire ça au niveau national et international? C'est pour l'instant une question et c'est une idée peut-être trop récente. Mais vous voyez que pour moi, ce qui est très important, c'est aussi la réception, le fait de partager cette fraternité qu'on peut vivre parfois, qu'on peut vivre entre des responsables religieux.
Et quels sont les défis majeurs que vous rencontrez dans la promotion de la paix et de la fraternité au sein des différentes communautés religieuses?
Alors vous m'auriez posé cette question il y a un an, je ne m'aurais pas fait la réponse que je vais vous faire maintenant. Pour moi, le défi majeur, alors je vais passer au singulier, vous avez posé la question au pluriel, mais les attentats du Hamas du 7 octobre, avec cette attaque terroriste faisant des centaines de morts, ont complètement changé les rapports entre les responsables religieux et les rapports au sein de la société d'ailleurs. Ces attentats et ce qu'on vit depuis en fait a occasionné une polarisation au sein de la société française. Alors cette polarisation elle se joue autour de l'attitude par rapport à la guerre entre Israël et Hamas. Est-ce que je suis pro-palestinien, pro-Israël, etc. Mais elle s'est aussi traduite cette polarisation de manière politique, notamment dans les élections législatives en France, par rapport au vote des deux extrêmes, si jamais on avait ces deux extrêmes en opposé au deuxième tour. Et on a eu un débat politique avec une certaine tension, parfois des propos assez violents, et des agressions, des propos de haine, de racisme. Donc cette polarisation de la société française depuis le 7 octobre est un réel défi. Un réel défi qu'on retrouve aussi au sein des responsables religieux. C'est beaucoup plus compliqué de réunir aujourd'hui des responsables juifs, musulmans et chrétiens. Les chrétiens peuvent tenir leur rôle, mais les juifs et les musulmans ont délaissé un certain nombre de lieux de collaboration parce que par solidarité avec Israël, avec la Palestine, etc. Les chrétiens sont, d'une certaine manière, un peu pris à témoin, parfois dans des positions tierces. Moi, j'ai utilisé, pour parler de cette situation, l'expression « crise de l'empathie ». C'est-à-dire si par empathie, j'ai une attention et que je fais une visite aux Juifs, certains musulmans vont mal le prendre en disant « mais je suis pas attentif aux Palestiniens ». Et si je fais l'inverse, les premiers vont mal le prendre. Alors si non, c'est un geste d'empathie, d'attention et vécu par un autre comme une trahison, c'est une catastrophe. Et donc nous avons appelé, nous les chrétiens, à assumer leur rôle, à visiter, à rencontrer. Et si on ne peut pas faire les rencontres en trois, à les faire de manière bilatérale pour entretenir. Donc, quels sont les défis majeurs? C'est probablement de dépasser cette polarisation afin de retrouver le socle de fraternité qui doit nous unir.
Et que pensez-vous? Pensez-vous que les Jeux Olympiques peuvent, disons, contribuer à renforcer le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés de foi?
Oui, alors, oui, profondément. Alors, en même temps, oui et non d'ailleurs. Je vous ai dit, l'enseignement que je tiens de ce centre multiconfessionnel, c'est un enseignement très précieux d'organiser ou d'imaginer une maison des religions. Donc forcément, l'organisation des Jeux Olympiques contribue à renforcer le dialogue si on arrive à mettre en œuvre ce projet. En même temps, les Jeux Olympiques en tant que tels ne contribuent pas nécessairement au renforcement du dialogue interreligieux. Il faut se rencontrer des gens de différentes origines, de différentes identités culturelles, sexuelles, de différentes opinions politiques et de différentes identités religieuses. Mais il ne renforce pas nécessairement le dialogue entre ces identités. Donc, je dirais oui, parce qu'on en, nous avons des leçons à tirer de ce qui se vit dans le cadre des JO. Des JO ne renforcent pas nécessairement, en tant que tel, le dialogue interreligieux.
Alors, il y a, vous dirigez donc la Fédération protestante de France. Comment vous envisagez de poursuivre cet esprit de paix et de fraternité au-delà des Jeux Olympiques?
Alors, en fait, c'est une question très très large. Nous travaillons en fait de manière constante sur cet objectif de paix et de fraternité. On y travaille d'ailleurs, vous avez rappelé les attributions, les compétences de la Fédération protestante de France. On y travaille parce que nous essayons de rassembler toutes les expressions du protestantisme français. Vous savez vous-même probablement combien ces expressions sont diverses, diverses culturellement, diverses confessionnellement, diverses théologiquement, divers spirituellement. Et donc, en fait, rassembler ces expressions, c'est déjà œuvrer à la paix et à la fraternité. Ensuite, nous y œuvrons dans le cadre d'un travail œcuménique, nous y œuvrons dans le cadre d'un travail interreligieux, je vous ai parlé de ça un instant, et nous y œuvrons aussi en essayant de penser la fraternité au sein de la société française. Et enfin, nous y œuvrons parce que nous avons un certain nombre d'engagements internationaux au Liban, à RDC, à Haïti, etc. Donc, c'est comment on va poursuivre, en fait, on va simplement persévérer dans l'action qu'on mène depuis des mois et des années afin de travailler et d'amener notre contribution en tant que culte à conforter l'esprit de fraternité et la paix en France et dans le monde.
Alors, avant les Jeux Olympiques, il y avait eu le pape François et le secrétaire général des Nations Unies qui avaient lancé un appel à tous ces pays en guerre de déposer des armes pour au moins observer la paix pendant les Jeux Olympiques. Mais cet appel n'a pas été entendu. Quel est votre commentaire? Comment vous évaluez tout cela?
Moi, je pense que le pape est pleinement dans son rôle et le comité international olympique est pleinement dans son rôle de rappeler effectivement cette tradition de la trêve pendant les Jeux olympiques. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas été entendue. Voilà, il y a eu celle. Ni en Russie, ni en Ukraine, même si l'Ukraine se défend et la Russie est agresseur.
Ni à Gaza.
Elle n'a pas été entendue. Ni à Gaza. Je sais que l'armée israélienne aussi a attaqué en Téhéran, donc porté atteinte à la vie du numéro 1 du Hamas.
Au Soudan, donc, au Mali, un peu partout.
Voilà, les situations sont multiples. Vous savez, moi j'ai découvert une chose avec... En allant en Ukraine très rapidement après le début du conflit, parce que j'avais des responsabilités qui m'obligeaient à y aller.
Il nous reste 30 secondes. Oui, allez-y.
Oui. En fait, j'ai découvert qu'il y avait trois temps dans la gestion de la guerre et d'un conflit. Et que le premier temps, c'est de déposer les armes. Le deuxième temps, c'est de traduire un cessez-le-feu en cessez-le-feu durable, c'est-à-dire d'avoir une paix durable, et après de guérir les mémoires. Et nous devons inlassablement appeler déjà à déposer des mémoires, à déposer des armes pour que ce travail d'une paix durable puisse se faire.
Merci beaucoup. Pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, on parlait de cet appel interne. et religions pour la paix à marge des JO 2024. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Georges Léonard Sagnot a assuré la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.